aller en avance avec la chasse aux traîtres. Traître, le mot est employé directement et clairement par les autorités ukrainiennes. Écoutez bien, ça sonne presque comme le FBI. Le SBI, c'est le service de renseignement ukrainien qui est chargé de faire la chasse à tous ceux qui ont accepté de collaborer avec l'ennemi russe. La chasse dans tous les territoires reconquis dernièrement par l'armée ukrainienne, comme évidemment à Kherson, avec des images ce soir que vous allez nous commenter, Pauline Simonet. Image de l'arrestation du maire adjoint de Kherson.
Oui, effectivement, le maire adjoint de Kherson, vous le voyez, qui a été interpellé dans une opération menée par donc le FBI, moi je vais dire le FBI ukrainien, qui a diffusé donc sur son site internet ces images. On le voit menotté et ensuite il va être transporté par les forces de l'ordre et il est maintenant en détention provisoire. Alors le maire adjoint de Kherson est accusé d'avoir collaboré avec les Russes pendant l'occupation de la ville et sur son site, là on voit sa photo qui a été floutée, sur son site on donne tous les détails de ce qui lui est reproché. Donc il est accusé d'avoir collaboré avec l'ennemi, notamment dans son travail à la mairie. Il a notamment collecté de l'argent pour l'occupant russe. Il aurait participé aux préparations du faux référendum sur le statut des territoires qui ont été annexés par la Russie. Et puis, il y a ces documents, des documents de propagande, nous dit le FBI, qui ont été saisis dans son bureau, des documents de propagande et la constitution russe. Et puis, il serait également impliqué dans un trafic illégal d'armes et d'explosifs et il risque jusqu'à 12 ans de prison. Alors on rappelle que la ville de Kherson, elle avait été prise par les Russes très rapidement et assez facilement sans combat au tout début de la guerre. Ça avait provoqué un véritable traumatisme pour les Ukrainiens. Mais c'est loin d'être un cas isolé. Sur ce site du FBI, si vous cliquez, vous allez voir toute une série de villes qui ont été reprises par les Ukrainiens, Kharkiv, Luhansk, Liman, où là aussi, le bureau d'enquête a arrêté des Ukrainiens, des gens qui sont considérés comme des collabos, des traîtres. À Kharkiv, 19 personnes ont été arrêtées notamment.
Et on a d'autres exemples. À Kupiansk, ils ont arrêté des agents du fisc qui sont accusés d'avoir collecté l'impôt pour le compte des Russes. Les Russes sont arrivés, ils ont pris les agents du fisc, ils ont dit maintenant, vous collectez pour nous. La question qui va peut-être vous faire bondir, Elis Gosset, mais tous ces gens avaient-ils le choix ?
Écoutez, ce que je peux dire, par contre, c'est que...
Je sens que vous n'allez pas répondre à ma question.
Non, mais je voudrais rappeler une chose, c'est que quand les Russes ont occupé la ville de Kherson, ils ont arrêté le maire de Kherson, le patron de la ville, pas l'adjoint, le patron. Ils l'ont arrêté et ils l'ont accusé d'être un collaborateur des nazis, c'est-à-dire du régime de Zelensky. Donc, je dirais que c'est un petit peu la monnaie de la pièce. Mais non, forcément, il y a des gens qui ont été forcés de collaborer. Certains ne l'ont pas voulu et ils ont fui les villes ou qui étaient occupées, où ils ont résisté. Certains ont été arrêtés, torturés. D'autres ont été d'ailleurs assassinés par la résistance ukrainienne. Il y a eu des voitures qui ont explosé. Il y a eu des cas où effectivement des collaborateurs, entre guillemets, en tout cas présentés comme tels par les Ukrainiens, ont été éliminés. C'est la guerre. C'est difficile. C'est une période très sensible. D'ailleurs, il y a une autre chose qui va être très difficile pour les Ukrainiens, parce que il y a ceux qui sont montés au front, qui se sont engagés, qui sont battus. Certains sont morts, d'autres sont blessés et ils vont revenir chez eux. Puis il y en a d'autres qui sont partis à l'étranger. Il y en a d'autres qui ont préféré quitter l'Ukraine. Il y en a qui n'ont jamais été au front. Et toute cette société ukrainienne qui était vraiment touchée dans sa chair par la guerre, elle va se retrouver à un moment donné. Alors c'est vrai, on me dira c'est trop tôt pour parler de l'après-guerre, mais on voit déjà ce que ça représente, le fait que certaines villes soient libérées et qu'il faille finalement régler les comptes de l'occupation. Mais imaginons les comptes qu'il va falloir régler lorsque la guerre sera terminée. Ce sont des périodes très difficiles. On les a vécues en France.
Des enfants déportés et russifiés.
Et ne parlons pas, effectivement, de ces milliers d'enfants. Vous savez, ce qui est très intéressant, c'est que il y a eu à peu près 9000 enfants qui ont été déportés en Russie, parfois adoptés par des familles russes. Mais les Ukrainiens tiennent une comptabilité absolument
précise,
mais ils n'ont pas réussi à retrouver tous les enfants. Ils ont identifié plus de 4000 enfants dont ils savent les noms, les prénoms, la famille et qui ont été donc emmenés de force en Russie.
Guillaume.
Dans ces moments-là, il y a deux phénomènes qui sont un peu différents mais qui malheureusement se cumulent. D'une part, il y a une question de nettoyage quasi militaire. On peut pas laisser dans la ville de Kherson par exemple des personnes qui sont au service de la Russie, qui feraient du renseignement, du sabotage, etc. Donc c'est très important de les neutraliser rapidement. Mais le deuxième phénomène, qui est toujours épouvantable parce qu'il ouvre la porte au pire, c'est celui de la vengeance. Et donc j'espère que les Ukrainiens pourront exercer le plus grand contrôle. Je préfère que ce soit des arrestations et que derrière il y ait des procès, plutôt que ce soit une partie de la population qui se venge de l'autre. Parce que là, on sait que on ouvre, et on en a eu l'expérience malheureusement après la guerre en France, au pire, sachant que les pires collaborateurs échappent toujours en plus à cette vengeance, et que c'est eux qui après viennent écrire des livres d'histoire.
Pardon Guillaume, mais la question c'est de savoir, est-ce que l'État ukrainien, la nation ukrainienne est suffisamment debout et en ordre de marche pour pouvoir, en temps de guerre, faire le tri entre ceux que vous venez de présenter, entre ceux qui ont vraiment collaboré, ceux qui n'avaient pas le choix,
clairement,
etc.
Clairement, ce qu'elle peut faire en cette période, c'est uniquement la première partie, c'est-à-dire le nettoyage quasi opérationnel, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y ait pas de relais en fait de la Russie sur place. Mais la deuxième partie n'est pas jouable là, parce qu'il faut des moyens beaucoup plus importants d'enquête, et surtout s'assurer que tout ça se fasse au rythme de la justice et surtout pas la vengeance personnelle des uns ou des autres.
Justement, c'est là que la justice peut protéger éventuellement tous ces gens qui seraient accusés. Si vous laissez des gens dont tout le monde sait qu'ils ont aidé les Russes et qu'ils collaboraient et qu'ils ne sont pas mis en prison tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, pas la place, pas les moyens, ben c'est exposer justement des gens à des actes de vengeance. Donc oui, il faut absolument que le droit s'exerce de la manière la plus rigoureuse. Collaborer avec l'ennemi, c'est un délit. L'intelligence avec l'ennemi, c'est un délit.
Et 12 ans de prison en Ukraine.
Oui, non, mais très bien. Mais ça doit se faire dans le pur respect du droit.
Et d'ailleurs, il précise dans ce site internet, il n'y a pas énormément de détails, mais il précise que les faits pour lesquels ils sont incriminés, ils sont en détention provisoire, ont bien été expliqués et qu'ils vont être jugés et que leurs droits aussi leur ont été rappelés à chacun d'entre eux. Donc on a l'impression aussi que l'une des volontés, il y a une mise en scène presque un petit peu, on a l'impression qu'on rejoue un peu l'arrestation. Je ne sais pas si on est dans un garage ou devant la mairie, on a l'impression qu'on rejoint un peu l'arrestation, à lui passer les menottes, à l'emmener tranquillement dans cette voiture. On ne voit jamais son visage, il est flouté. Donc on a l'impression qu'on veut montrer
qu'on
respecte...
Parce que les images que vous avez montrées tout à l'heure, ce sont des images qui sont publiées par les services officiels ukrainiens, qui veulent montrer à la population que des arrestations ont lieu et que les collabos, comme ils les appellent, on les cherche.
Sans violence.
On les cherche. Oui, sans violence, c'est vrai.
Mais le comportement des Ukrainiens, le comportement de l'État ukrainien, de ses services est observé. Et cette observation, elle joue sur le soutien que l'on peut apporter à ce pays. Donc il est extrêmement important que
les choses se déroulent dans les règles.
Exactement, parfaitement dans les règles. Ou que si ça dévie, ce soit un phénomène exceptionnel qui est lui-même sanctionné également toujours dans les règles.